clivage, c'est bon, tout le monde
oui.
Filme tout en direct. Les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais.
9h41, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante,
formation numérique,
le nez sur l'écran internet.
Ça a toujours été l'une des tranches les plus exposées, les plus scrutées, les plus critiquées de la télé. Mais depuis que Vincent Bolloré a enterré les guignols encryptés, viré Antoine Decaune et son producteur pour y installer Maïté Nabi-Rabin, c'est devenu le porte-étendard d'une reprise en main musclée de Canal+ par son actionnaire. Rentré sous haute tension donc pour le grand journal, audience en chute libre et déluge ahurissant de commentaires. Alors comment est construite cette émission ? Qui trouve-t-on ? Paye-t-elle ses faiblesses ? Ou son contexte ? Peut-on enrayer une telle spirale ? Question à Maïté Nabi-Rabin, bonjour à vous.
Bonjour.
Et salut à vous tous, rejoignez-nous, hashtag Instant M.
L'Instant M, tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Je résiste pas, c'est au moins la troisième fois que je la passe à l'antenne.
Je comprends, c'est irrésistible.
Maître Gims, diffusé 200 fois par semaine sur Skyrock, eh ben, va falloir varier un peu, un tout petit peu. Le débat, c'était mardi dans l'Instant M. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté. Les radios musicales qui doivent remplir des quotas de chansons françaises seront tenues de ne pas diffuser toujours les mêmes artistes. Disons que la répétition sera quelque peu plafonnée. La tension monte encore à l'Express. Dans l'attente d'un plan social massif, les journalistes adressent une lettre ouverte à Christophe Barbier, soulignant le vide abyssal, je cite, de son projet éditorial et la contradiction qui consiste à prétendre fournir un contenu de haute qualité en coupant dans tous les postes de la fabrication, de la vérification et de l'illustration de l'information. Enfin, Ara Aprikian, ex-patron de la chaîne D8, limogé par Vincent Bolloré, va, selon le site Pure Média, conseiller TF1, un groupe dans la tourmente de l'audience depuis un an. Aprikian en a été, fut un temps, le directeur du divertissement, un passé dans lequel il a allègrement puisé, recyclant sur D8, animateurs ou formats qui firent les grandes heures de TF1. Maïté Nabi-Rabin sur France Inter, Maïté Nabi-Rabin aux manettes du Grand Journal depuis le 7 septembre. Au mois de juillet, on vous dit à la tête du Grand Journal, la polémique sur la suppression des guignols avait déjà largement enflammé l'opinion et suscité beaucoup de réactions, d'émotions, de papiers, de critiques, de polémiques, de débats et un des débuts de questions sur la censure. Vous acceptez de reprendre l'émission dont c'était le programme phare. Inévitablement, vous alliez endosser aux yeux du public le choix de votre nouveau président, Vincent Bolloré.
Et alors ?
Inévitablement, vous vous êtes posé la question de ce que ça provoquerait sur
Bien
vous,
sûr.
Sur votre compte et
alors,
sur l'émission.
Merci. Je vous répondais par une pirouette, mais merci de me poser la question. D'abord, je voulais vous dire, je n'ai pas intrigué pour avoir cette émission. J'ai fait une compète à la loyale du temps de Rodolphe Belmer, qui s'est soldé par un échec patenté au Festival de Cannes, puisqu'il m'a dit, c'est à Cannes que se décident généralement les grilles pour Canal, que le Grand Journal continuerait, produit par Renaud Levenquim, avec Antoine Decaune à sa tête.
Donc c'était une émission en fait dans laquelle vous étiez pressenti depuis plusieurs saisons.
Non, je vous arrête. Je n'ai jamais voulu présenter le Grand Journal. Je n'aimais pas
le format de cette... Vous venez de parler d'une compète à la loyale ?
Pour récupérer la case,
d'accord,
pas l'émission.
D'accord.
Moi, ce que je voulais, c'était qu'on puisse proposer une émission qui me ressemble. Mais je ne voulais vraiment pas faire une émission dans le format qui était celui
le Grand
de
Journal,
l'année dernière.
Voilà. Tel que Antoine Decaune ou Denisot l'a présenté avant vous. Les Inrock, par exemple, expliquent qu'on vous a proposé une coprésentation avec Antoine Decaune. Il en a été question.
Ça aurait été bien qu'il m'appelle le journaliste des Inrock. J'aurais pu donner des infos. Et on m'a dit que c'était pas pour moi et qu'on l'aurait
d'accord,
pas. Très bien,
okay.
J'avais perdu, parfait. Ensuite, on m'a appelé en me proposant une coprésentation. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous me donnez pas le truc, je vais pas aller le coprésenter. Bien sûr que non, et puis ça n'a pas de sens. Et ensuite, les décisions ont été prises de sortir Renaud Levenquim. Je n'y peux rien, je n'ai pas manœuvré pour ça. Je n'ai rien fait pour obtenir le truc. On me l'a proposé, j'ai réfléchi. Et il y a une chose qui a fait que j'ai accepté. Il y avait la liste des pour et la liste des contre. Mm-hmm. La liste des contre était très 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 longue. La liste des pour, il y avait une phrase, c'est mon métier.
et vous aviez envie de le faire. Je vous propose d'écouter Cyril Eldin sur votre plateau.
La semaine dernière, c'était ma semaine de la bienveillance. Je dois avouer que je me suis senti un peu seul, si j'en crois certains papiers que nos confrères ont écrits sur le Grand Journal, mais comme disait Mitterrand, il faut laisser dire.
Vous êtes loin de faire l'unanimité en ce moment, du coup je me sens moins seul. Vous, on vous accuse d'humilier la gauche, nous au Grand Journal d'être complaisant avec le FN. Rabelais avait raison, il y a plus d'imbéciles que d'habitants sur Terre.
Non, il faut jamais considérer que ceux qui disent du mal de vous sont des imbéciles.
Mais évidemment, parce qu'on va encore dire qu'on est arrogant, mégalo, mais on va développer.
Moi, on dit rarement ça de moi, mais vous, on dit beaucoup ça de vous, j'ai remarqué.
Cyril Eldin, qui était déjà votre chroniqueur dans le supplément du dimanche sur Canal, vous essuyez de très, très vives critiques, Maïté Nadu-Rabin. Oui. Vous n'êtes ni la seule en télé, ni la première, ni la dernière. Non, mais... N'empêche que ça tape très, très dur.
Oui, ça tape dur parce que...
Vous vous y attendiez ?
Oui, je m'y attendais. Je m'attendais pas peut-être à la... On savait tous que ce serait difficile. Juste, il faut que vous vous rendiez compte, l'équipe qui fabrique cette émission, elle est partie, elle faisait l'édition spéciale en vacances. Elle était en mois de juillet, elle est partie, elle faisait l'édition spéciale. Elle est rentrée au mois de fin,
c'est
au fin août.
C'est l'équipe de la production interne, voilà, du groupe Canal qui s'appelle Flab.
Non mais les journalistes, les programmateurs, etc. Ils faisaient la nouvelle édition, ils arrivent, ils font le Grand Journal. C'est un changement de logiciel énorme. On savait tous que ça allait être extrêmement compliqué. On y va, on essaie de garder le sourire, et c'est mon rôle de donner le sourire à mon équipe, parce qu'on a envie de la défendre cette émission, parce qu'on y croit, parce que ce qu'on fait ça n'est pas indigne. Après, c'est la cible, parce que c'est normal, c'est l'émission la plus importante de la chaîne, même si le Petit Journal fait beaucoup plus d'audience que le Grand Journal, et depuis un moment d'ailleurs. Donc c'est l'émission, le navire amiral, c'est là-dessus que se portent les regards et les critiques.
Les titres de papier vous concernant depuis le 7 septembre, le champ lexical est quand même très très extrême.
Il est large. Oui.
C'est ça, on parle de tornade, de tempête, de crash, de carnage, de massacre et de haine à votre propos.
C'est pas grave, je considère... c'est un objet exotique. Je vais vous dire, moi, je
qu'est-ce que c'est un objet exotique ?
Non mais ça, ce déferlement, ça devient un truc exotique. Moi, je fais mon métier. Moi, mon métier, c'est l'artisanat. Je fais de la télévision, je vais tous les soirs sur un plateau. J'ai cette chance. Je considère que c'est une chance de faire cette émission. C'est une aventure extraordinaire. On l'a fait avec mon équipe. On va aller le plus loin possible. On n'est pas satisfait des audiences. Elles devraient être bien plus hautes. Elles vont le devenir. Tout va bien, les gars. Tout va bien.
Je vous avais reçu au mois de juin et je vous l'avais fait remarquer. À l'époque, vous bénéficiez, vous vous souvenez, d'une revue de presse quasi stalinienne. C'est-à-dire tellement vous faisiez l'unanimité.
Vous voyez, ça s'est inversé.
Auprès des journalistes. Réellement, c'était assez flagrant, à peu près aussi flagrant qu'aujourd'hui. Vous aspirez, vous attirez, vous concentrez toutes les critiques des choix et de l'attitude adoptées par Vincent Bolloré. Je vous donne un exemple. Ce matin, le supplément télé de l'Obs, qui est très lu par la profession, publie une enquête titrée « Le coup d'État médiatique ». Illustration du papier, un photomontage assez habile où on voit la tête de Bolloré partout sur le plateau du Grand Journal. À votre place, à celle de vos chroniqueurs, à celle des invités et dans celle du public.
Alors, au mieux... j'ai Vincent Bolloré dans mon oreillette. Au pire, je n'ai plus de cerveau. Donc, Vincent Bolloré n'est pas dans mon oreillette et j'ai un cerveau. Le même que l'année dernière quand je faisais le supplément et le même que l'année prochaine quand je ferai le Grand Journal ou autre chose. Vincent Bolloré ne m'a jamais appelé pour me demander quoi que ce soit sur cette émission. Il n'a jamais appelé les producteurs pour leur demander quoi que ce soit. Il n'intervient pas dans l'éditorial. C'est nous qui décidons de ce que nous faisons.
Alors, il y a hier midi un article publié par Télérama, l'interview de deux confrères, Fabrice Arfi de Mediapart, Benoît Colomba de France Inter, qui sont les co-auteurs de Informer n'est pas un délit, sorti chez Calman Lévy, qui prétendent avoir été sollicités par votre équipe, pas vous personnellement, mais par votre équipe, pour enregistrer un pilote, pour garder absolument la première interview télé à propos de ce livre très coup de poing sur les nouvelles censures, et puis d'avoir été, depuis le 9 septembre dernier, déprogrammé.
Alors, Fabrice a effectivement été contacté pour venir pour les pilotes. Vous savez, on fait des fausses émissions, on a besoin de vrais invités pour les fausses émissions.
C'est une répétition, en fait, voilà.
En fait, c'est ça. On lui avait effectivement demandé, c'est absolument vrai. Finalement, on a choisi un interview politique parce que c'était plus facile pour moi dans les délais, machin, etc. Le livre n'a pas été déprogrammé. Ce n'est pas... Je voudrais vraiment... Il faut vraiment
le livre contient un chapitre extrêmement à charge sur le harcèlement judiciaire que pratique Vincent Bolloré sur les journalistes.
Juste une chose, Il faut vraiment m'écouter quand je dis ça. La programmation du Grand Journal est faite par les programmateurs du Grand Journal. Elle n'est pas faite ni par Vincent Bolloré, ni par Fabrice Arfi. Fabrice Arfi sera invité un jour au Grand Journal et il viendra au Grand Journal. Pour l'instant, il peut dire qu'il a été déprogrammé, mais c'est faux. C'est juste simplement faux. Et puis quand il dit ça, il sous-entend, et je les connais, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, Fabrice Arfi, Edoui Plenel, etc. sont des journalistes d'investigation que je connais, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, dont le travail est extrêmement particulier. Paul Moreira, tous ces gens-là, pour certains, me connaissent. Est-ce qu'ils peuvent... Alors je leur demande de venir vous dire ouvertement dans un micro que je ne m'appartiens plus, que je n'ai plus de cerveau, que je n'ai pas de professionnalisme et que je ne décide pas de ce que je fais.
En même temps, vous le comprenez sous-entendu, que il est dément. Cette terre du soupçon plane sur le moindre effet et geste de la
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je réponde à tout le temps? Ce n'est pas possible.
Est-ce que l'attitude de votre actionnaire vous nuit, Maïté Nabirabin, nuit à l'image de l'émission?
C'est pas très facile de travailler dans ce contexte, mais c'est mon job et je vais le faire. On va continuer de le faire. On va continuer de le faire avec de l'envie, parce qu'on en a, et on va juste garder les choses pour ce qu'elles sont. À la fin des fins, il s'agit d'une émission de télévision. Ce n'est pas sur le plateau du Grand Journal que se joue l'indépendance du journalisme en France.
Alors, on va vous écouter le lendemain de ce que vous avez qualifié de maladresse à propos du Front National.
J'aurais pu dire un discours cash, un discours anti-langue de bois, c'était évidemment le propos de l'émission. J'ai dit un discours de vérité. Alors, pour éviter tout nouveau raccourci, je vous renvoie au replay sur canalplus.fr. Et puis, je remercie beaucoup mes confrères. Merci à vous de suivre avec autant d'attention notre émission et donc mes interviews. Surtout, surtout, continuez. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à être tout petit peu détendu quand même.
Voilà, déferlement à nouveau. Maïté Nabirabin, à la tête du Grand Journal, invité de France Inter ce matin. Vous aviez donc qualifié le FN de premier parti de France et puis tenant un discours de vérité. Vous avez pris les remarques d'anciens confrères, Jean-Michel Apathy, qui était aux côtés de Denise Aupuis, d'Antoine Decaune pour les émissions, les interviews politiques, de Gilles Dasse aussi, qui s'est assis dans ce fauteuil. Moi, il y a un papier du Monde qui m'a beaucoup surpris. Maïté Nabirabin et le FN, derrière le dérapage, un changement de ligne. Le Monde, Le Monde.
Je sais, ce que vous voulez que je vous dise, pour les uns, je suis pas à ma place parce que sous-dimensionnée. Pour d'autres, je porte, pour Le Monde, je porte la nouvelle incarnation d'un changement de ligne politique en France. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse au milieu de tout ça?
Ou d'une panique les audiences, parce que les audiences, Maïté Nabirabin, là, elles sont autour de 500 000, ce qui est historiquement bas pour cette tranche. Ça n'a jamais atteint des seuils pareils. Alors, toutes les tranches en clair de Canal trinquent depuis la rentrée. Il y a eu un grand jeu de chaises musicales, on a à peu près tout changé, sauf Ardisson, qui reste dans le même contexte, avec à peu près la même formule, et lui s'en sort très bien. Est-ce que vous vous sentez menacé dans la suite de cette émission? Est-ce que vous avez peur de perdre votre job? Le Point, ce matin, publie un écho, assez peu détaillé et circonstancié, mais qui prétend que Bolloré a déjà un plan B.
Écoutez, moi j'ai le soutien, je le dis pour mes équipes, pour qu'ils l'entendent, j'ai le soutien de la direction de Canal+, je ne suis dans la tête de personne, ils feront bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je vous dis de plus, moi? Moi, je fais mon job.
Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, ce qui m'a surprise, c'est que nouvelle tête, nouvelle maison de production, pourquoi le Grand Journal est resté le Grand Journal? Pourquoi ne pas avoir changé de titre?
Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, je me suis bagarrée pour que ça reste pas le même nom. J'ai pas gagné ce combat-là. Pour Canal, le Grand Journal est une très belle marque, une marque qui compte, qui n'est pas abîmée, et donc qui devait être pérenne. C'est la réponse que m'a donnée la chaîne. Voilà.
Parce que sinon, à l'intérieur de cette formule, vous avez procédé à énormément de changements. Il y a un JT intégré que vous faites en ping-pong avec l'impeccable Victor Robert, qui précise chaque soir le prétendu État islamique. C'est une précaution oratoire que je salue chez un confrère. Donc vous êtes en ping-pong. Ensuite, vous avez cette interview politique en face-à-face.
Pas forcément politique.
Seul. Disons, une interview vraiment dans l'actu et souvent sur le terrain politique. Donc c'est là-dessus que vous étiez salué par toute la presse et toutes les critiques à l'époque où vous faisiez le supplément. Ensuite, une deuxième partie, puis une troisième partie avec des interviews, on va dire, plus dans l'actu, plus culture. Et puis une troisième partie avec une vraie crise d'ado. qui semble avoir frappé le grand journal. Jeune, très très jeune, des youtubeurs en veux-tu, en voilà. Violetta, Major Lazer ce soir, Selena Gomez.
Oui, mais enfin aussi Libertines, aussi oui. Christine and the Queens. Et puis il y aura des gens moins jeunes. Voilà, il y a un peu de tout. On a une scène qui est extraordinaire. Donc elle est vraiment vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Pour des tas de détails techniques, les musiciens, on va pas se priver, ça va, c'est bon quoi.
Est-ce que c'est devenu, est-ce que c'est une vraie difficulté? Est-ce qu'il y a un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire l'audience qui chute, les critiques qui en rajoutent, et derrière les invités? On sait que pour des talk-shows qui sont en concurrence frontale à cette heure-là, mais les invités, c'est le nerf de la guerre.
Sonia, excusez-moi, mais moi, je fais une émission. Oui. Voilà, j'y vais tous les soirs, oui. Avec envie, avec oui. Joie. J'ai la chance d'être avec Augustin, mm-hmm. D'être Trafnard, avec Cyril, d'être Eldin, avec Lorraine, Bastide, d'être avec toute une rédaction. Je suis désolée pour les peines à jouir. On est content de le faire. Voilà, c'est tout. On est juste content de
Est-ce
le faire.
Est-ce que vous avez les invités que vous voulez avoir?
Mais oui, on a les invités qu'on veut avoir. On se bagarre comme tout le monde. Mm-hmm. Y a pas, personne n'a refusé de venir chez nous, jusqu'à preuve du contraire. Et on a plutôt des gens qui sont dans l'actu ou qui ont des choses à nous dire. Enfin, y a pas de sujet avec ça.
Alors, il se passe quelque chose, là, depuis une semaine. Ça ne vous aura pas échappé. C'est la place absolument effrayante que prend Nadine Morano dans oui. l'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle a dit une énorme horreur en oui. matière de race blanche. Elle l'a dit sur le plateau de Laurent Ruquier. Oui. La preuve que le gros clash médiatique qui a été fabriqué pour, occupe absolument tout le débat public. Pour l'instant, c'est aussi ce qu'on dit du grand journal, rien n'en sort, c'est-à-dire ni buzz, ni clash, ni reprise. On sent bien dans quelle compétition vous êtes aussi, vous les talk shows. La nécessité de créer quelque chose.
On peut pas tout me reprocher, et son inverse, c'est quand même un peu compliqué. On peut pas me dire que je fais le lit du Front National. Faire le lit de, j'adore. Mm-hmm. Je fais le lit du Front National et on est trop lisse. Enfin, nous, on est, enfin, je pense que l'émission est totalement perfectible. Je pense qu'il y a des tas de choses à améliorer et il faut amener de la gaieté, par exemple, de l'imprévu, etc. Ça, c'est une certitude. Maintenant, moi, je fais le métier que j'aime. Je pose des questions à des gens et j'écoute leurs réponses. Voilà.
Vous la trouvez un peu raide, un peu triste? Pour l'instant?
Non, je trouve que je trouve ni raide ni triste. Je trouve que ça manque de fantaisie pour l'instant. Mais ça va venir. On y travaille. Tout va bien, quoi.
Hier, par exemple, vous faisiez venir de manière assez impromptue et réussie au milieu des Libertines, c'est un sosie qui s'est fait passer pour Pete Doherty, en tout cas qui a été confondu avec lui. Vous vous levez, vous lui dites prenez ma chaise, elle est très convoitée en ce moment.
Mais c'est vrai, tout le monde la veut. Écoutez, si je m'en vais, je vous assure qu'il y aura des prétendants.
Ce qui est difficile à croire.
Mais je m'en vais pas.
Vu ce que vous essuyez et vous ce que vous prenez. Vous vous êtes invité en duplex sur D8 pour l'anniversaire de Touche pas à mon poste. Pourquoi?
Parce que c'était sympa. C'était sympa en fait. C'est sympa, moi j'aurais bien aimé qu'on nous le fasse et je suis très heureuse de l'avoir fait. J'entends votre générique, je voulais juste le dire. Moi j'ai grandi face, ça m'est personnel, face au mépris et aux donneurs de leçons. Mm-hmm. Je voulais venir ici. Avec vous parce que avec vous parce que vous bossez bien et c'est parce que c'est aussi ici qu'il y a eu la plus grande expression du mépris. Quand Charline Van Hollecker a parlé de domestique, c'est la plus grande des expressions de mépris. Alors, je parle pour tous les salariés de Canal+ et de e-télévision. Que faut-il faire pour ne pas essuyer votre mépris? Il faut démissionner? Nous ne le ferons pas.
Merci Maïté Nabirabin. C'est la fin de l'instant M. Je passe la parole à Bruno Duvic, un jour en France.
Bonjour Sonia. Aujourd'hui, comment enrayer la désertification des centres-villes? Les commerces au rideau baissé, mais pas seulement. Comment enrayer cette désertification?
Mais on va y arriver.
Notamment dans les villes petites et moyennes. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000.
Un jour en France, juste après les infos.